Ouais, Daniel, salut, c'est Stéphane. Tu vois, il est 5h30 du mat, je reprends la route. Je suis artisan transporteur routier. Et je tenais à te féliciter pour ton émission, qui relève vraiment le niveau. Hein, quand on voit ce qui passe, j'écoute de temps à autre là, les radios concurrentes. Ah, c'est vraiment le jour et la nuit. Et pour rebondir sur le jour et la nuit, je venais une réflexion ce matin, en partant. Les plus grands maux de la planète ne viendraient-ils pas en fait que lorsque un peuple dort, un autre à l'autre bout de la planète est bien éveillé, lui, et échafaude pendant ce temps-là les plans contre celui qui est bien tranquillement en train de se reposer. Voilà, c'était la pensée du jour.
Daniel, j'ai peur, je me chie. Ils sont devenus fous, totalement fous ces Américains. Mais c'est quoi ce trou du cul de bouche là? Il y en a marre. C'est horrible, j'ai peur. J'ai 40 ans et j'ai peur. Ciao.
Salut, c'est JBD. Et arrêtez d'écouter la radio et allumez plutôt la télé. Il passe la pub pour la guerre du Regolf.
Nouveau.
Découvrez
la guerre en Irak.
Instantanément.
Tout de suite, aujourd'hui.
Les soldats américains, britanniques et australiens sont déjà à l'œuvre en territoire irakien.
Pour vous.
Environ 4000 hommes.
Que c'est beau d'être un homme.
Garni de saucisses de Strasbourg.
Que c'est beau d'être un homme.
Garni de saucisses de Strasbourg.
La guerre en Irak.
Plus lumineuse, plus riche.
Plus de joie.
Encore plus doux, encore plus efficace,
plus longtemps.
Toujours plus.
La guerre en Irak.
C'est bon d'avoir les boules.
Et c'est irréversible.
Qui m'en parlait?
Bonjour, Marie-Thérèse Bru dans le Tarn. Message. Un grand salut au journal Le Monde. Je l'encourage à continuer son brillant travail et à corriger ce qui devrait l'être sans se croire ni Dieu ni martyr. Simplement un instrument de travail, d'information et de réflexion. Et j'ai peine à comprendre qu'on écrive tant de livres pour accuser, se justifier ou remuer la vie et la mort des autres, et qu'il y ait des gens qui achètent ces livres. Personnellement, je n'ai aucune envie de les acheter. Merci.
J'aimerais savoir ce que pensent les messieurs du monde diplomatique de cette histoire du monde. Merci.
Eh ben nous aussi. Eh ben nous aussi, on aimerait savoir ce que le monde diplomatique pense du monde et de ce livre sur le monde. On va leur poser la question, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve, comme chaque mois, avec l'équipe du monde diplomatique. Alors, beaucoup de messages, beaucoup de réactions sur cette affaire, justement, du monde et sur ce livre dont nous avons reçu les auteurs, comme beaucoup de monde, et ce qui s'observe, c'est que peu d'entre vous ont lu le livre. D'abord parce que c'était pas facile de le. Il y a eu des problèmes de distribution, de fabrication, et puis parce que c'est long, 632 pages. Quand on n'est pas un as de la lecture, comme tous les journalistes et tous les animateurs de radio-télévision qui eux lisent un livre en quelques heures, même pas d'ailleurs. Eh ben non, mais c'est vrai que c'est long. Et ce qu'on observe, c'est que les opinions qui s'expriment se contentent de rumeurs ou bien de quelques papiers écrits sur un coin de table. Donc, il faut le lire et complètement. Et ce sera pas avant quelques semaines que l'opinion pourra être constituée, évidemment. Parce que les petites réflexions qui se font sur il fallait-il parler du père de l'un ou de l'autre, ou bien le chapitre concernant la francophobie du monde, etc. Ce sont des aspects, on va dire, tout à fait secondaires dans ce livre. Voilà, petite réflexion. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec l'équipe du monde diplomatique, mais il y a beaucoup d'autres messages d'ici là. Le numéro du répondeur, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37.
Bonjour, Suzanne Colsaët. J'entendais hier un de vos auditeurs s'étonner de ce qu'on ne parle pas plus souvent du bouquin d'Arthur Koestler, Le Zéro et l'Infini. Je m'étonne encore davantage de ne jamais entendre parler de l'affaire Toulayev de Victor Serge, qui est plus riche en détails, plus concret, moins monochrome. Enfin, je trouve que comme roman, c'est plus intéressant. Et j'ai quelquefois l'impression que personne ne connaît ce bouquin. Il n'est plus au catalogue du livre de poche. Il y était. C'est sorti avec les autres livres de la même série, Les Révolutionnaires, au Seuil, en 67. Et depuis, j'ai pas connaissance de réédition de ces livres-là. Est-ce que c'est parce que Koestler a viré au centre, mais que Victor Serge, si je suis bien renseignée, il est resté trotskiste? Je me le demande. Mais voilà, je voulais signaler ça.
Et vous avez raison, effectivement, il faut lire et relire Victor Serge, cet homme qui est mort en 1947 à 57 ans, et qui était un proche des bolcheviks, mais qui fut un dissident anti-stalinien, proche de Trotsky, avec qui finalement, madame, il s'est fâché. Tout ça, je le sais parce que j'ai lu l'édition dans la collection Bouquins chez Lafon, une édition récente des Mémoires d'un révolutionnaire et autres écrits, des textes réunis par Gilles Silberstein, dont je vous conseille la préface, la préface qu'a écrit Gilles Silberstein à ce numéro, enfin cette édition des Mémoires d'un révolutionnaire et autres écrits de Victor Serge est absolument éblouissante, prodigieuse et stimulante. D'autres messages sur le répondeur.
Oui, bonjour. Et d'abord, merci à Daniel Vernier pour cette émission sur Stalingrad. Je veux dire qu'à 8 ans, en 1942, je me rappelle l'explosion de joie de mon père et de ma famille. En plus, mon beau-frère était juif, il venait de se marier avec ma sœur à l'annonce de la victoire de Stalingrad. Et d'autre part, moi, plus tard, à 17 ans, en 1950, je me suis trouvé en délégation de la jeunesse française avec l'UJRF, pour ceux qui savent, ils savent ce que c'est. Et nous avons été à Stalingrad. J'ai ramassé sur la colline Mamayev Kurgan la terre dans laquelle il y avait des éclats d'obus. Il y avait même, je vous assure, des morceaux de cette terre, elle est au musée de la Résistance de Toulouse. Et c'est pour ça que je veux absolument saluer ces soviétiques et que surtout le peuple français, la France ne l'oublie pas, que c'est aussi et d'abord grâce au sacrifice du peuple soviétique que nous avons la liberté aujourd'hui. Et je suis encore plus heureux, 27 ans après j'y suis revenu, d'avoir vu dans les vitrines du musée de Stalingrad, le musée de la Victoire, le drapeau de combat de l'UJRF, il est dans les vitrines, que nous avions porté, sur lequel il est inscrit « Jamais le pays de Guy Mocquet ne fera la guerre aux enfants des héros de Stalingrad ». Voilà ce que je voulais dire.
Moi, pendant longtemps, je me suis posé la question « Comment ça se fait ?» que dans les cours d'histoire au collège ou même à l'école, on nous parle tout le temps des rois. Et vous, vous parlez du peuple. Et l'émission sur Stalingrad, c'est on nous parle de l'histoire, mais vu d'en bas. C'est extraordinaire. Ce qui sera jamais écrit dans les bouquins, d'ailleurs. Voilà, enfin, c'est un petit témoignage. Merci beaucoup.
Anecdotiquement, en 43, j'ai un copain égyptien, parce que j'habitais en Égypte, dont le papa, il l'a appelé Staline, tout simplement, parce que c'était quelques jours après la victoire de Stalingrad, et donc j'ai eu un copain, Staline, dans mon enfance. Voilà. Et alors, heureusement, il s'appelait aussi Mohamed. Alors après, on l'a appelé Mohamed, parce que quand même, Staline, c'était un peu dur à appeler. Mais c'était rigolo, oui. J'espère qu'il y en a d'autres, des Stalines, un peu partout au monde, à cause de Stalingrad. Allez, salut la bande de là-bas, si j'y suis. Et moi, j'y suis.
Bonjour, Daniel Mermet. Je m'appelle Laurent, je viens d'écouter l'émission à propos de Stalingrad. Émission prenante, bouleversante. Bravo de rendre la mémoire aussi vivante. Je crois que c'est nécessaire. J'ai juste un léger malaise qui me vient après réflexion. C'est trop, peut-être trop prenant, trop bouleversant. C'est beau de parler de grands sentiments, mais ils sont à double tranchant. Et cela se voit bien dans la distance que vous mettez en parlant de la grandiosité de la cérémonie et en évoquant aussi la terreur stalinienne qui n'a jamais cessé de survivre derrière l'héroïsme de Stalingrad. Peut-être qu'une idée serait intéressante à l'occasion, c'est aussi de revoir cette armée rouge après à l'œuvre lorsqu'elle reprend les territoires conquis et les exactions qu'elle a pu commettre en Allemagne histoire de juger l'histoire de loin, d'un œil serein, et de faire la part des choses. Voilà, au revoir.
Un procès peu banal se tiendra ce mercredi 12 mars au tribunal correctionnel de Lille. Le maire communiste de Seclin y est en effet convoqué pour s'expliquer sur l'accusation d'antisémitisme dont il est l'objet. Cette affaire a pour origine l'annonce début janvier, lors des vœux de Jean-Claude Luyem à la population, de la décision prise par la ville de Seclin de boycotter les produits israéliens fabriqués dans les territoires occupés, en particulier les colonies israéliennes. Cette décision a provoqué la colère de deux associations qui y ont vu une incitation à la haine raciale et à l'antisémitisme. L'accusation est d'autant plus surprenante que rien dans les propos du maire ne permet d'affirmer qu'il visait les personnes de confession juive. Dans cette déclaration, que chacun peut d'ailleurs lire sur le site internet de la ville, Jean-Claude Huyem évoque même le droit pour les peuples palestiniens et israéliens de disposer chacun d'un État et d'un territoire où ils puissent vivre en paix. Il semble bien que derrière ce procès se dissimule une stratégie visant à criminaliser toute critique de la politique du gouvernement israélien. Toute action contre les atteintes aux droits de l'homme perpétrées par Ariel Sharon et ses hommes. Au-delà de cette affaire, c'est une campagne d'amalgame qu'il s'agit de mettre en échec. Jean-Claude Huyem, dans ce contexte, n'est pas le premier à en faire les frais. Toi, Daniel, mais également Charles Anderlin, le journaliste de France 2, qui avait filmé en direct la mort d'un enfant palestinien dans les bras de son père, ont également été la cible des pro-Sharon. Une campagne médiatique a encore dernièrement jeté l'opprobre sur le vote par une université parisienne d'une mention demandant la suspension de l'accord Union européenne-Israël, motion qui ne faisait que reprendre le vote majoritaire d'un vœu du Parlement européen. Toutes les personnes attachées à la liberté d'expression sont donc invitées à venir soutenir le maire de Seclin ce mercredi 12 mars au tribunal correctionnel de Lille, avenue du peuple belge. L'audience est prévue à 14h. Merci, c'était Vincent de Pantin.
I'm Eric Sean at the United Nations, where in just hours from now, the British will introduce a second resolution co-sponsored by the U.S. and Spain. It's number 18 and could be Saddam's last chance.
You know, war is my last choice.
Ces images se passent de commentaires.
War is my last choice, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec le monde diplomatique du mois de mars.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, le monde. Dans le monde diplomatique, il y a le monde. Hein, et la question actuellement tourne autour du monde. Je veux parler évidemment du livre de Péan et Cohen, La face cachée du monde. Alors, les auditeurs évidemment ne manquent pas de poser la question de savoir quelles sont les réactions du monde diplomatique qui est lié au monde dans cette affaire. Yassir Amonet.
Dans cette affaire, on n'est pas lié. Fort heureusement, les auteurs de ce livre ne citent pas, ou pratiquement pas, je crois qu'ils font une ou deux allusions très indirectes au monde diplomatique. Alors, j'ai le plaisir de vous dire que, bien sûr, nous réservons cette position à nos lecteurs.
C'est ce qu'a dit Le Monde au moment de l'apparition, lui aussi.
Bah, je comprends, d'ailleurs, c'est correct, ça me semble tout à fait correct. Et donc, l'ensemble de l'équipe a lu le livre, d'ailleurs, a suivi très attentivement tout ce débat, et on publiera, bien entendu, un texte, voire plusieurs textes, dans le monde diplomatique du mois d'avril. Hein. Donc il faut attendre un petit peu et on aura l'occasion sans doute d'en discuter avec vous à ce moment-là.
Il faut cirer, il faut cirer, il faut cirer les souliers, faire briller, faire briller, faire briller la monnaie. Il faut cirer, il faut cirer, il faut cirer les souliers, faire briller, faire briller, faire briller la monnaie. Il faut cirer, il faut cirer, il faut cirer les souliers, faire briller, faire briller, faire briller la monnaie. Il faut cirer, il faut cirer, il faut cirer les souliers, faire briller, faire briller, faire briller la monnaie. Il faut cirer,
partout dans le monde, partout dans le monde, partout dans le monde, partout dans le monde. De Rio à Bamako, de Mexico à Puerto Rico, partout il y a des gosses caramello, des minots qui vont gagner des haricots sur les godios du populo. À Djibouti et à Delhi, il y a des petits qui sur la place de la mairie, pour quelques francs, quelques roupies, cire les chaussures des partis pris. Partout dans le monde, il y a des gosses à côté de leur pompe qu'on assassine sur la routine. Et pour ne plus qu'ils aient la rage, on leur mène dans le cirage.
partout dans le monde. Y'a des gosses à côté de leurs pompes qu'on assassine, cela hallucine. Et les femmes plus qu'ils aient la rage, on leur met les dans le cirage. À Jakarta, y'a des petits gars qui vivent dans la rue comme des rats. À la sortie des cinémas, pour une ration de riglu, on sert les chaussures des honnêtes gens. C'est la dèche à Marrakech, y'a des petits sur la brèche qu'on peint un flèche. Et pour gagner menu fretin, sur les mocassins de leur assassin.
Donc, entrons dans ce numéro du mois de mars, et bien évidemment que la question principale, c'est l'Irak. Vous consacrez 14 pages, rien que ça, à la question irakienne. Vous abordez ça de tous les côtés avec un très long papier d'Edouard Saïd, avec un long papier de Céline Nassib, qui nous montre la situation actuelle vue du côté arabe. Ça manquait. On avait eu les croisades racontées par les Arabes autrefois. Et tout d'un coup, là, c'est enfin cette situation et l'histoire aussi du monde arabe. Alors, on avait dit le mois dernier, parce que c'est un feuilleton qui n'en finit pas, dans cette fameuse guerre annoncée, tout le monde parle de la guerre annoncée, hein, c'est le titre le plus employé, c'est la guerre annoncée, cette guerre qui tient qu'à un fil. On avait dit, c'est une situation inédite. Comment vous voyez les choses, vous, actuellement, Ignacio?
Je crois que ça se confirme que c'est une situation inédite. Il est évident, le monde diplomatique a titré, vous l'avez remarqué, crise mondiale autour de l'Irak. C'est tout de même pas, je veux dire, un titre qu'on utilise tous les mois, hein. Il s'agit d'une crise mondiale. Pourquoi on peut parler de crise mondiale? Pourquoi c'est une situation inédite? Parce que jusqu'à présent, dans ce qu'on appelle le camp des alliés, il n'y avait pas eu, disons, une différence ou une opposition aussi tranchée entre des pays qui ont toujours été alliés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas alliés des États-Unis comme la France et l'Allemagne, et la position américaine ou américano-britannique. Il y a là, tout de même, dans ce qu'on a pu suivre au cours du mois, matière à réfléchir, parce qu'on a les Nations Unies qui se posent même aujourd'hui la question de leur existence. Comment vont-elles s'en sortir après cette crise? Pourront-elles d'ailleurs s'en sortir? C'est une question qui est posée aujourd'hui. Elle n'est pas tout de même assez, enfin disons, elle n'est pas fréquente. Deuxièmement, l'Union européenne, elle est quand même, pour tout ce qui concerne la politique étrangère, où il y avait eu un effort depuis quelques années d'essayer de construire quelque chose de commun en matière de politique étrangère, on voit bien que la fracture est là extrêmement importante. Et troisièmement, l'OTAN elle-même, cet instrument de défense et de sécurité de l'Union européenne, on a bien vu que l'OTAN s'est retrouvée finalement fracturée avec une philosophie tout à fait différente aujourd'hui. Donc à partir de là, il y a tout de même la constatation que nous sommes devant une crise mondiale. Cette crise, essentiellement, chacun l'aperçoit, parce que, disons, l'opinion publique est persuadée aujourd'hui, non seulement les chancelleries, hein, mais l'opinion publique est persuadée que cette guerre va avoir lieu, que les États-Unis, du moins cette administration, la souhaite, la veut et la fera.
Et quelle est votre conviction à vous?
Je pense, ma conviction personnelle, c'est que cette guerre aura lieu.
Hein? Alain Grège?
Oui, moi aussi.
Dominique Vidal?
Oui, j'observe d'ailleurs que ça fait 6 mois qu'avec régularité, on vous répond à votre même question par la même réponse, la guerre aura lieu.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment là, au moment où nous parlons, on voit bien que le point de non-retour a été atteint. C'est-à-dire qu'il y a actuellement, autour de l'Irak, environ 300 000 hommes qui ont été expédiés, à peu près 240 000 Américains, 60 000 Britanniques. Bon, on déplace pas cette masse de soldats, etc., et avec toute la logistique qui l'accompagne, sans se ridiculiser au cas où il faudrait les ramener à la maison tout d'un coup sans qu'il se passe rien. Donc d'une part, il y a cette guerre quasiment inéluctable, et d'autre part, l'opinion publique internationale qui jusqu'à présent n'est pas convaincue ou n'a pas été convaincue par les arguments qui sont avancés pour justifier cette guerre.
Il y a même une mondialisation de l'opposition à cette guerre. Hein?
Ce qui s'est passé le 15 février, c'est quand même un phénomène unique, un phénomène premier. Je veux dire, c'est une des conquêtes, en quelque sorte, du mouvement altermondialisation, parce que cette idée de manifester au même moment, dans plus de 600 villes le même jour, est né lors du Forum social européen à Florence. Ça a été confirmé au Forum social de Porto Alegre, Forum social mondial. Et cette idée, elle a pris corps. Il y a quand même, disons, 10 millions de personnes qui sont sorties dans plus de 600 villes. Donc, et pourquoi sont-elles sorties? Elles ne sont pas sorties pour soutenir Saddam Hussein, que donc tout le monde condamne le régime. Elles sont sorties parce que il n'y a pas d'argument aujourd'hui assez convaincant, disons, de bon sens, tout simplement.
Et puis tous les scénarios sont catastrophiques. Enfin, il n'y a pas un seul. Il y a très peu de scénarios qui donnent raison à cette guerre. Et les conséquences, personne n'envisage des conséquences favorables, finalement. Il y a très peu de scénarios, en tout cas. Dominique Vidal.
Oui, ce que je voulais dire, je crois que on ne peut pas comprendre l'importance de l'opposition à cette guerre, qui n'est pas seulement une opposition de manifestants, même 10 millions, mais enfin, à l'échelle de la planète, 10 millions... c'est spectaculaire, mais ça n'est que 10 millions. Ce sont aussi des enquêtes d'opinion un peu partout qui donnent des refus de l'ordre de 80-90%. Et puis, ce sont des gouvernements. C'est-à-dire les trois quarts des gouvernements de la planète se sont exprimés à l'Assemblée générale des Nations Unies pour dire qu'ils s'opposaient à cette guerre. Et je crois que ça vaut de réfléchir pourquoi, effectivement. C'est-à-dire, quand on compare avec la guerre du Golfe, celle de 1991, on voit combien les choses ont évolué. Premièrement, Saddam Hussein avait occupé le Koweït. Le fait de se poser la question d'armes de destruction massive, s'il y en a, et s'il en reste qui soient menaçantes, on voit bien que ça n'a strictement rien à voir avec l'occupation d'un pays indépendant, souverain, comme le Koweït. On voit qu'à l'époque, on sortait de la guerre froide et qu'il y avait l'espoir, l'illusion, d'un nouvel ordre international. C'était au nom de ce nouvel ordre que Bush père faisait la guerre. Et puis on avait l'espoir que au Proche-Orient, après l'intifada et les prises de position courageuses de l'OLP, de reconnaissant l'État d'Israël, en même temps qu'elle proclamait l'État palestinien, on avait l'espoir de négociations qui allaient permettre de sortir de décennies de guerre. Et puis on avait une grande coalition. On ne le dit plus aujourd'hui, mais il y avait 27 pays qui participaient avec des soldats. Directement, 1 million de soldats à l'aventure contre l'Irak, la première. Aujourd'hui, on a un petit groupe, bon, de pays importants, évidemment, les États-Unis, principale puissance mondiale, la Grande-Bretagne, l'Australie. On va voir pour les autres, mais moi, j'observe que même les alliés les plus étroits, ils sont en difficulté. Anthony Blair, en Grande-Bretagne, est menacé de perdre son gouvernement, voire de perdre la direction des affaires du pays. Berlusconi, en Italie, ne cesse de répéter depuis quelques jours que s'il n'y a pas une résolution très nette de l'ONU, les Italiens ne participeraient pas à l'aventure.
2 millions de manifestants le 15 février
bien sûr.
Italie.
Et pareil en Espagne, où Aznar, qui était déjà englué dans les affaires du prestige, est là complètement isolé dans son opinion, y compris dans sa classe politique, jusque dans son propre parti. Alors évidemment, il a décidé qu'il quittait la vie politique, donc il a moins de soucis de ce côté-là que Monsieur Blair, Monsieur Berlusconi, mais quand même, on a vraiment l'impression d'une guerre qui se fait contre la planète entière. Et je crois que ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va peser lourdement pour l'avenir.
Plus breaking news on Fox News Live right now. This is a Fox News alert. I'm David Asman. Glad you could join us. The U.S. military one step closer to using Turkey as a launch pad for a possible war with Iraq. Let's go live now to Geraldo Rivera. He is in Adana, Turkey. Geraldo.
Mi corazón y no solo de mi boca esa letra que pensar y recordar te provoca porque de tribulación te digo pasamos mucha sufrimiento y decepción pero seguimos en la lucha si no puedes escuchar entonces te lo escribo si no puedes leer entonces te lo digo si no puedes escribir entonces te lo escribo si no puedes leer entonces te lo digo si sigo y sigo molestando tu cerebro hasta llevarte bien dentro del cementerio para que veas para que sientas cuando nadie te reconforta cuando nadie te calienta y sí esto me calienta más que a dos no sabes lo que significa dar amor cuando en las manos no tenemos que dolor vivís y vivís y después morís y no sabes para qué vivís y no sabes lo que es dignidad tampoco la honestidad fabrada así te vamos a quemar muy fuerte en las brasas de la justicia que vamos a conseguir hasta siempre vamos a luchar hasta siempre vamos a luchar dignidad
Dignidad, dignidad, dignidad.
a diplomatic bombshell for Saddam Hussein. You blew your final chance.
Quelques échos de la rumeur aux États-Unis et cette heure avec le monde diplomatique du mois de mars.
From NBC News, this is a special edition of Today. America Strikes Back.
Madame Grèche.
Moi, je pense qu'il serait intéressant de, justement, de s'interroger sur pourquoi on est tellement convaincu que la guerre va quand même avoir lieu, malgré toute cette opposition. Et je crois que pour comprendre ça, il faut vraiment comprendre quelle est la politique américaine. On a plusieurs papiers là-dessus dans le monde diplomatique. C'est-à-dire, qui sont ces gens qui sont au pouvoir et comment ils mènent leur politique? Et je crois qu'on ne peut pas comprendre cette espèce de détermination à faire la guerre en dehors d'une vision que ce groupe a du monde. Il y a beaucoup d'arguments qui sont avancés, le pétrole, les arguments géostratégiques, qui pèsent en partie, mais qui, à mon avis, ne sont pas l'élément fondamental. L'élément fondamental de cette administration Bush, c'est de remodeler l'ordre mondial autour de d'une puissance sans rival et sans concurrent. Et, en gros, résumé, le droit international, c'est ce que décident les États-Unis. Je crois qu'il faut bien comprendre cette dimension, c'est très idéologique de ce groupe de Cheney, le vice-président, Rumsfeld, le ministre de la Défense, Wolfowitz, son adjoint, etc., pour comprendre cette détermination. Parce que sinon, on pourrait penser que même du point de vue américain, finalement, le désarmement de l'Irak est en train de se faire, les Américains peuvent se dire qu'ils l'ont obtenu, que c'est grâce à la présence massive des troupes américaines qu'ils l'ont obtenu, et ils pourraient se satisfaire de ça. Mais ils ne le veulent pas parce que ça ne serait pas, je dirais, un exemple probant de cette domination sans partage. Et je crois que c'est aussi pour ça que l'Irak est, de leur point de vue, une étape dans une guerre sans fin qu'ils ont annoncée, qu'ils sont en train de mener parallèlement, parce qu'on parle beaucoup de l'Irak à juste titre, mais ils sont maintenant aux Philippines, ils sont maintenant en Colombie. Il y a, autour de l'idéologie antiterroriste, une volonté de mondialiser la lutte, avec une espèce de vision très religieuse qu'ont tous ces gens, c'est-à-dire c'est une lutte entre le bien et le mal. On est frappé d'ailleurs par...
Il y a un long papier de Philippe Golub qui explique que cette l'idéologie que vous évoquez, elle a une histoire, hein, comment elle s'est développée dans les années 70 et comment soudain cette idéologie qui en était une parmi d'autres s'est trouvée portée en avant et jusqu'à aujourd'hui par le 11 septembre.
Oui. C'est le 11 septembre a été un moment qui a permis à ce groupe qui était effectivement dont l'origine politique est les années 70, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont opposés à la détente avec l'Union soviétique. C'est les gens qui pensent que le monde ne peut pas se concevoir sans ennemis. Parce qu'ils ont une pensée religieuse dans laquelle, qui dit, en gros, le monde est une lutte permanente entre le bien et le mal. Et les États-Unis représentent le bien. À un moment, c'était l'Union soviétique. Et puis, quand l'Union soviétique a disparu, ça leur a posé un problème. Mais ils ont dit, à ce moment, il y a les États voyous, il y a les pays qui ont les armes de destruction massive. Et quand il y a eu le 11 septembre, ce groupe qui était influent, mais qui n'était pas dominant, est devenu dominant. Il est devenu dominant aussi parce qu'il s'appuie sur un mouvement très important qui est le mouvement fondamentaliste chrétien protestant aux États-Unis, qui a une influence massive sur la politique extérieure aujourd'hui et qui, je dirais, les conforte leur position à l'intérieur.
Autant que l'islam ailleurs.
Oui, bien plus que l'islam. Je veux dire, bon, c'est quand même quelque chose d'important qui explique encore une fois, je veux dire, la détermination de ce groupe. On est frappé à quel point ils sont insensibles à toutes les critiques, à toutes les contradictions de leur politique, à toutes les oppositions, y compris d'alliés proches. Donc, je crois qu'il y a une vision messianique quasiment qui est, je le dis, une espèce de vision en miroir de ce que dit Ben Laden. C'est-à-dire, nous sommes dans une lutte entre lui, Ben Laden pense que c'est entre les croisés et les juifs d'un côté, les musulmans de l'autre, et eux, ils pensent que c'est une lutte entre le bien et le mal. Et finalement, ils se confortent l'un l'autre.
Avec la démocratie pour bouclier.
Oui, avec la démocratie pour bouclier, mais qui fait aussi que, bon, comme vous savez, aux États-Unis, les questions de politique internationale ne sont pas des questions centrales de la vie politique, donc c'est facile à manipuler. Encore qu'on peut constater, et là, l'article d'Edouard Saïd dans le Monde Diplo le montre, qu'il y a une montée de l'opposition aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il y a une opposition massive, enfin massive, pas c'est une minorité, mais très importante. Les manifestations du 15 février aux États-Unis ont été vraiment très importantes, mais sans aucun relais politique, parce que le Parti démocrate s'est aligné sur les positions du Parti républicain, et donc qui n'arrive pas à trouver une articulation pour peser sur le système politique. Mais cette opposition, quand même, elle se développe d'autant plus qu'il y a l'opposition à l'étranger. Et le fait qu'il y ait eu hier une position du New York Times, qui est un journal quand même influent, qui dit que la guerre n'est pas la solution, est un signe que cette opposition n'est pas le fait de groupes radicaux, marginaux, les jeunes, les étudiants, etc., mais au contraire, ils touchent les églises, les syndicats, une partie de la droite aussi, qui pense que cette espèce d'interventionnisme partout n'est pas bon pour les États-Unis. C'est un mouvement qui, en cas de dérapage dans la politique, dans la mise en œuvre de la politique en Irak, et je pense qu'il y aura, parce que les plans américains sur l'Irak sont inapplicables, donc ils vont rencontrer des oppositions, ils vont rencontrer vraiment des difficultés dans la mise en application de cette politique. À ce moment, je pense que le mouvement d'opposition aux États-Unis grandira.
Iraq should be ready.
L'Irak devrait être prêt.
Iraq should be ready.
L'Irak
ready
devrait
for us.
Ready.
Us, right
prêt
here.
À nous ici.
We're coming.
On arrive.
We're coming.
On arrive.
All right. We're gonna see you soon.
On va vous voir bientôt.
Iraq.
Vive Ben Laden, franchement.
Les États-Unis, c'est la superpuissance et l'Irak, c'est fait partie voilà. De la tiers-monde. Quand ils vont frapper l'Irak, ils vont pas comprendre la paix ou pas de paix.
On parle en général, un Américain reste un Américain, il changera pas, comme nous, un Marseillais, Français, on changera pas. Voilà, on est bien là, on veut pas de guerre, on veut rien, on est bien.
Fier d'être Marseillais.
Bon courage.
Et on encule les Américains.
La guerre a un fil avec l'équipe du Monde Diplomatique jusqu'à 18h. Bien sûr, Amonet, vous avez quelques lignes dans votre éditorial, enfin de votre article, pour saluer la position du président Chirac. Vous dites quand même que les vêtements sont un peu trop grands pour lui. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est les convictions intimes de Jacques Chirac qui sont exprimées par le président Chirac, ou bien est-ce qu'il il suit l'opinion? Il y a des précédents à ça.
Oui, mais je pense que c'est une question que se pose un certain nombre d'analystes, c'est de savoir dans quelle mesure la position de la France d'aujourd'hui résulte, disons, d'une observation, d'une étude de la situation comme ça internationale, et dans quelle mesure elle est le résultat finalement d'un contexte. Et je pense qu'il y a un peu une partie des deux. C'est vrai que Monsieur Chirac s'est un peu retrouvé presque par hasard. On ne savait pas qu'il avait cette analyse de la politique internationale. Moi, je le compare dans l'article au général de la Rovere, qui est un personnage d'un film de Rossellini très très connu, et dans lequel c'est un film qui se passe sous à l'époque de l'occupation en Italie, et finalement les Allemands arrêtent un escroc. Ils arrêtent un escroc brillant, sympathique d'ailleurs, interprété par Vittorio De Sica, et il lui propose un marché, soit tu vas en prison tout de suite, soit tu acceptes de te faire passer pour le général de la Rovere, que personne ne connaît, et qui est le chef de la résistance, et comme ça tu nous permets d'accéder à la résistance, et ce personnage accepte d'être le général de la Rovere, mais il se prend peu à peu au jeu, et finit par résister vraiment, au point même finalement qu'il en devient un héros et qu'il meurt fusillé par les nazis. Donc on a l'impression que Jacques Chirac s'est un peu retrouvé par hasard, mais ce rôle...
finisse pas de la même façon.
Non, mais la place était vide. C'est aussi la démonstration qu'a fait Chirac, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne au monde pour s'opposer aux États-Unis aujourd'hui. Ni la Chine, ni la Russie, personne. Et qu'il y avait une place à prendre... c'est celle de, finalement, l'opposition à cet empire. Et cette place, il l'a prise, d'ailleurs avec les Allemands, pour d'autres raisons. Et en fait, ça lui donne une popularité absolument fantastique, dont d'ailleurs le voyage récent en Algérie n'a été qu'un petit témoignage. Mais je crois que Jacques Chirac se promènera aujourd'hui, je ne sais pas, en Inde, au Brésil, au Mexique, etc., au Nigeria, partout il serait accueilli comme... celui qui propose une autre politique. Et je crois finalement que ça nous conduit à nous interroger sur ceci que cherchent la France et l'Allemagne par cette position qui est intenable. Parce que si tout à l'heure vous avez fait un petit test autour de nous trois en nous demandant est-ce que vous pensez que cette guerre est inéluctable, la réponse unanime a été oui, nous le pensons. Mais si nous sommes à 75% à peu près sûr que cette guerre aura lieu. On peut imaginer que Schröder et Chirac aussi le savent que cette guerre aura lieu. Et donc, par conséquent, en quoi consiste leur position? Puisqu'ils savent qu'ils vont difficilement pouvoir empêcher cette guerre. Eh bien, je crois que, par cette position, ils sont en train de se placer pour l'après-guerre. Voyez-vous, l'après-guerre, c'est quoi? Comme disait Alain à l'instant, qu'est-ce qui se joue dans cette guerre? Ce qui se joue, essentiellement, c'est l'hégémonie américaine, bien entendu, à l'échelle internationale, quelle que soit la position des Nations Unies. Les États-Unis et cette administration affirment finalement que leur conception du monde va devenir la loi du système international. C'est comme ça que ils l'envisagent. On entre dans une nouvelle étape. Eh bien, et cette nouvelle étape, ils ne la conçoivent comme unilatérale. Eh bien, la position de la France et de l'Allemagne par le simple fait qu'elle existe maintenant, c'est déjà de dire, dans le monde aujourd'hui tel qu'il est, il y a déjà au moins deux pôles. Pas forcément deux pôles comme il y en avait quand il y avait l'Union soviétique, mais il y a maintenant déjà un second pôle qui vient d'apparaître, ce qui brise l'aspiration américaine à être sur un monde unipolaire. Quelle est une caractéristique que je trouve très intéressante de ce second pôle? C'est que, à la différence de ce qu'était l'Union soviétique, disons, ce second pôle n'est pas hostile. C'est pas un pôle de guerre contre les États-Unis. C'est malgré tout constitué par deux alliés des États-Unis. Mais qui sont en train de dire, au-delà de l'administration américaine, sont en train de dire aux États-Unis, dans ce que ça suppose de complexité politique, les États-Unis n'ont pas les moyens de régler tous les problèmes du monde aujourd'hui. C'est même pas la peine qu'ils veuillent assumer ce rôle. Ils vont à l'échec. Il vaut mieux que, finalement, il y ait d'autres pôles. Parce que ça peut être utile, parce que, par exemple, c'est pas en gagnant la guerre d'Irak qu'ils vont gagner la guerre contre le terrorisme international. Ils ont besoin d'alliés pour la guerre contre le terrorisme. Ils ont besoin, il y a d'autres guerres à gagner, la guerre contre la pauvreté dans le monde, la guerre contre le... Ils ont besoin d'alliés. Et là, la France et l'Allemagne, bien entendu, c'est intéressant. Mais d'autres pôles peuvent surgir. Lula, dans un texte qu'on a lu récemment, a proposé qu'un autre pôle apparaisse, constitué par le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et le Mexique, par exemple. Pôle non hostile non plus, mais proposant une autre vision du monde. Et c'est en ça, je crois, qu'il y a, dans cette démarche franco-allemande, quelque chose qui est profondément original, au-delà de l'anecdote que ce soit M. Chirac.
Le monde diplomatique est devenu chiracien.
Non, mais je crois que c'est le propre des esprits libres, même quand ils sont critiques, que de savoir regarder, écouter et comprendre des phénomènes nouveaux. On a comparé à De Gaulle, d'une certaine manière, ça n'a pas de sens. De Gaulle apparaissait comme un pôle entre deux pôles existants. Et il n'était pas à égale distance des deux. On sait bien que dans l'affaire de Cuba ou dans l'affaire de Berlin, De Gaulle a été aligné sur les États-Unis sans la moindre hésitation. Mais il profitait de la marge de manœuvre créée par la détente pour affirmer une politique originale à l'intérieur de l'ensemble occidental. Là, on est ailleurs, il n'y a plus d'Union soviétique. Donc effectivement, comme le dit Ignacio, c'est un deuxième pôle qui n'est pas un pôle hostile, mais qui est un pôle sacrément critique. Et moi, je trouve que ce qui s'est passé en Algérie est absolument passionnant. Bien sûr, il y a une dimension franco-algérienne qu'on va pas sous-estimer, elle est même majeure. Et puis, il faut arriver à entendre tous ces jeunes Algériens qui disaient des visas, ça voulait dire quelque chose de fort, même sur la politique des visas français dont nous parlons dans une double page de Maurice Masquino dans le numéro de mars. Mais il y avait une dimension mondiale, c'est-à-dire, voilà, on avait la traduction de ce que disait Ignacio, c'est-à-dire Chirac en l'occurrence, mais Schröder, d'une certaine manière Poutine, d'ailleurs on ne sait pas jusqu'où il ira au Conseil de sécurité, était la voix des sans-voix, la voix de ces 4/5 de l'humanité. Donc on ne compte même pas les voix quand on dit qui est pour, qui est contre la guerre, sauf si, par hasard, ils se trouvent à ce moment-là au Conseil de sécurité et on va les acheter à coup de chantage ou à coup de millions de dollars. Donc cette idée d'une voix des sans-voix, d'un nouveau pôle qui essaie d'exprimer ceux qui ne sont pas pour la gestion unilatérale de la planète, ça me paraît très fort. D'autant que des vraies questions vont se poser après la guerre.
C'est vrai que c'est drôle aujourd'hui de voir des petits pays comme l'Angola ou d'autres qui sont courtisés, qui tout d'un coup jouent des pions majeurs dans cette histoire. Et ça, c'est une des vertus des Nations Unies.
Vous savez qu'il y a un sondage récent qui a montré que même en France, une femme sur 10 était battue. Alors vous me faites penser à ça quand vous dites que ces pays sont courtisés. Ils sont courtisés, mais à coup de chantage, et de chantage absolument incroyable. C'est pas seulement des cadeaux qu'on leur fait. C'est aussi des menaces qui pèsent sur la possibilité pour leur propre population de continuer à survivre comme elle le fait depuis longtemps. Donc hein, là, on fait la cour d'une manière assez brutale.
On peut rappeler à ce propos qu'en 91, quand il y a eu le vote au Conseil de sécurité pour autoriser la guerre, le Yémen était membre du Conseil de sécurité et il a voté contre. Et l'ambassadeur américain le dit, c'est le vote le plus cher de l'histoire de l'humanité, parce que ça aboutit à la suppression de 70 millions de dollars d'aide des Américains. Voilà.
Mais donc, ce que je voulais dire, si vous permettez, Daniel, c'est, je crois que maintenant, on va d'abord se poser des questions sur la guerre, parce qu'on aurait tort d'évacuer les dégâts collatéraux, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de milliers d'Irakiens, de femmes, d'enfants, qui vont périr dans cette guerre. C'est déjà écrit. Et s'il s'agit en plus d'une guerre urbaine, avec un véritable combat dans les villes, à Bagdad, Dieu sait à quel niveau de victimes on peut arriver. Mais admettons qu'il y ait aussi des questions pour l'après-guerre et qu'on puisse se les poser dès maintenant. Bon, il y a la question de l'Irak même. Alain en a parlé, je ne veux pas y revenir. Il y a la question de la gestion mondiale de la planète, on en a parlé. Mais il y a aussi la question du Proche-Orient. Et là, je voudrais dire que, à mon avis, rien n'est joué. C'est-à-dire, on aurait tort d'avoir des scénarios catastrophistes ou optimistes. C'est vrai qu'une des hypothèses, c'est que les États-Unis se trouvent dans une telle situation de bourbier en Irak qu'ils soient amenés à relancer le quartet, le groupe, pardon, États-Unis, Nations Unies, Union Européenne et Russie, qui est chargé de superviser et d'animer de possibles négociations israélo-palestiniennes en vue de la constitution d'un État palestinien dans un avenir relativement proche. Donc ce quartet a été complètement enterré dans la préparation de la guerre contre l'Irak, en tout cas de manière officielle, même si des négociations se sont poursuivies. On peut imaginer que l'administration américaine, prise dans une situation d'impasse en Irak et ailleurs, essaye de relancer ce processus. Et d'une certaine manière, l'annonce de la nomination, si finalement il l'accepte, d'Abou Mazen comme premier ministre de l'autorité palestinienne, c'est un geste important qui indique à l'ensemble des partenaires du quartet que l'autorité palestinienne est prête à s'engager dans cette négociation avec un certain nombre de conditions qui ne sont pas des conditions particulièrement démocratiques vu la manière dont elles ont été imposées. Mais le fait est qu'il y a là un signe intéressant. Mais on peut aussi imaginer l'exact inverse. C'est-à-dire que la situation soit tellement complexe que des forces, je pense en particulier dans le gouvernement israélien qui vient d'être constitué, essayent d'en profiter pour aller encore plus loin dans l'offensive anti-palestinienne. On n'a pas assez dit que dans le gouvernement Sharon bis, il y a deux partis dont les chefs sont ouvertement, officiellement, en faveur du transfert de population, c'est-à-dire en faveur de l'expulsion des Palestiniens, le Parti national religieux, et le parti dit de l'unité nationale, qui est dirigé par un homme, Avigdor Lieberman, dont la proposition, il y a quelques mois, était de bombarder le barrage d'Assouan, pour donner une leçon aux Égyptiens. Ça donne une idée du caractère extrêmement raisonnable de cette équipe. Eh bien, il suffirait, comme Amir Haas l'a montré dans un article du Monde Diplomatique de février...
Il vient de recevoir un prix, d'ailleurs.
Amir Haas, qui vient absolument de recevoir un prix pour son travail, tout à fait remarquable, elle disait qu'un scud à tête chimique tombe sur Israël, ou bien qu'un méga attentat palestinien fasse plusieurs centaines de morts parmi les civils israéliens, ou bien que des manifestations palestiniennes dégénèrent, tout ça dans le contexte de la guerre, avec l'espèce de rideau de fumée où tout se passe à Bagdad et pas au Proche-Orient, directement au cœur du conflit israélo-palestinien. On peut imaginer une aventure. Après tout, Ariel Sharon ne cesse de répéter, la guerre de 1948 n'est pas terminée. Autrement dit, il y a encore beaucoup de Palestiniens à expulser.
Ignacio Ramallet. Je veux dire, dans le sens de ce que dit Dominique, la guerre elle-même...
Okay, get ready.
Iraq should be ready.
L'Irak devrait être prêt.
Iraq should be ready.
L'Irak
ready
devrait
for
être
us. Right
prêt
here.
Pour nous.
We're coming.
On arrive.
We're coming. We're gonna see you soon.
On va vous voir bientôt.
Iraq should be ready.
Il faut cirer les souliers.
Voilà, la guerre arrivera comme ça, brusquement. Pour ceux qui trouvent qu'on parle trop de l'Irak, trop du Proche-Orient, il y a un papier dans le Monde Diplomatique de ce mois-ci de Arundhati Roy, vous savez, cet auteur de Le Dieu des Petits Riens, qui raconte un peu ce qui se passe en Inde, la situation politique et sociale en Inde. 1 milliard d'êtres humains dont on s'occupe peu. On continue avec le monde diplomatique et évidemment avec les médias américains sur cette guerre annoncée.
Back, I'm Alex Witt. As we head past the bottom of the hour, the latest from Iraq. Iraqi officials continue to destroy the stockpile of Al-Samud 2 missiles under the supervision of UN arms inspectors. Should the U.S. go to war with Iraq, what can American troops expect? The CIA now worries they're going to be the target of independent terrorist attacks in addition to Saddam's army.
Et qu'on parle un petit peu des médias dans cette affaire, notamment des médias américains. On disait que le New York Times s'était déclaré contre cette guerre, mais c'est pas le cas de la presse américaine dans sa généralité. Et vous avez un papier sur les télévisions, notamment Fox News, qui est une télévision engagée. Enfin, c'est pas la seule télévision, mais c'est la plus engagée de la façon la plus radicale. Auprès du gouvernement du gouvernement Bush, la réputation de la presse américaine est en train d'en prendre un coup. Cette presse exemplaire, il y a pas que certains journaux de référence en France qui sont en train d'en prendre un coup, mais cette réputation de la presse américaine, là,
on a affaire à ce qu'il faut bien appeler une propagande de guerre, je veux dire à un niveau rarement atteint. Il y a eu un exemple récent quand même intéressant. Il y a quand même des journaux qui écrivent et qui font des choses intéressantes, notamment New York Times ou Washington Post, qui à certains moments peuvent expliquer des choses. Il y a eu des révélations sur la manière dont les États-Unis espionnaient les membres du Conseil de sécurité. Il y avait des écoutes, on ouvrait leurs courriers, etc., etc. Ça fait la une, je crois que c'est New York Times. Enfin, le journaliste responsable de ça est invité par 3 grandes chaînes de télévision américaines. Le matin même où l'information sort, et puis 3 heures après, tout le monde annule et n'a pu passer sur aucune des grandes chaînes. Voilà un peu le climat général. Bon, évidemment, c'est particulièrement vrai des télévisions. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que le New York Times et le Washington Post sont des journaux influents, mais qui influencent plutôt les élites. Les journaux qui touchent massivement la population américaine, enfin, ce sont les médias qui touchent massivement la population américaine, c'est les télévisions. Et là, on a aussi une montée en force, qui est pas récente d'ailleurs, de la droite dans tous ces médias, aussi bien télé que radio, et quelque chose qui se rapproche, je le disais, de la propagande de guerre, dont Fox News est peut-être l'exemple le plus éclatant, puisque c'est une télévision qui milite ouvertement pour la guerre. Encore une fois, dans une population où il y a une très grande confusion sur l'international, comme vous savez, non seulement il y a des difficultés à situer les pays, mais des fois, par exemple, il y avait un sondage qui montrait qu'il y avait une grande partie des Américains qui ne faisaient pas la différence entre Saddam Hussein et Ben Laden. Je veux dire, il y a vraiment une très grande confusion. Donc, au lieu d'éclairer ça, je veux dire, ces grands médias vont dans le sens d'une préparation de l'opinion à la guerre. Et il faut bien voir dans ce contexte l'importance des manifestations d'opposition à la guerre. C'est-à-dire que c'est malgré tout ce déferlement que, effectivement, on sent...
Tout ça nous renvoie à ce qu'a été la couverture en 1991 en France. Hein. C'était pas Fox News, mais enfin, on était quand même pas très loin en France.
Je dirais, on peut s'interroger aujourd'hui, je veux dire, il y a une unanimité des médias français de soutien au gouvernement, à peu près, c'est plutôt sympathique, mais je veux dire, il y a des fois des...
Libération est plus modérée.
Oui, c'est vrai. Mais on peut s'interroger sur le fait de savoir si la position du gouvernement français était différente. Est-ce que les médias...
On peut se poser la question. Voilà. On peut se poser effectivement la question.
Moi, j'ai une hypothèse, en fait. J'ai une hypothèse sur tous ces phénomènes, enfin, qu'on vient d'analyser à l'échelle internationale. Je crois, en fait, qu'il s'agit, puisque nous sommes au début de ce mois de mars, d'un remarquable hommage 50 ans après la disparition du petit père des peuples, du maréchal Staline. Je trouve que l'administration américaine est en train vraiment d'organiser une cérémonie d'anniversaire tout à fait remarquable. On vassalise tous les alliés, et quiconque n'est pas vassalisé subit des représailles. On embrigade sa propre population avec une propagande comme on n'a rarement vu. Enfin, j'allais dire jamais. Faut jamais dire jamais, mais enfin, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une propagande pareille aux États-Unis. Et puis, on a ce discours absolument halluciné où l'on incarne le bien contre le mal. En fin de compte, quand on y réfléchit, il y a là vraiment un bel anniversaire des 50 ans de la disparition de Staline.
Il faut cirer les souliers, faire briller la monnaie. Il faut cirer les souliers, faire briller la monnaie. Il faut cirer les souliers, faire briller la monnaie. Il faut cirer les souliers, faire briller la monnaie.
Il faut cirer partout dans le monde.
Voilà, merci à l'équipe du Monde Diplomatique. Il faut cirer les souliers partout dans le monde. Merci à l'équipe du Monde Diplomatique, mais bien sûr à Monet, Alain Grèche et Dominique Vidal, qui le mois prochain, c'est promis, diront leur position par rapport à l'affaire du Monde, puisque le Monde Diplomatique a des liens avec le journal Le Monde. Je vous signale un livre de Dominique Vidal qui vient de sortir aux éditions Agon, qui s'appelle « Le mal-être juif, entre repli, assimilation et manipulation ». C'est un petit livre de textes très très dense et très clair, qui m'a aidé très très clair sur aussi bien la question de l'identité juive en France, les histoires dont nous avons été dans lesquelles nous avons été impliqués, etc. Et puis sur le même un thème proche, un livre de Michel Warchavski qui vient de sortir là aux éditions de La Fabrique, qui s'appelle À tombeau ouvert, et qui évoque la situation au Proche-Orient et notamment en Israël. Michel Warchavski est israélien, il est venu assez souvent dans cette émission où il s'inquiète vraiment. C'est un livre, un constat assez désenchanté, où il s'inquiète de la dégénérescence interne d'une société gagnée par le messianisme et le militarisme. Un constat assez terrible. La Fabrique, À tombeau ouvert, Michel Warchavski. Et puis vous avez été très intéressé par les deux émissions que nous avons consacrées au livre de François Ruffin, Les petits soldats du journalisme. Et je vous signale que François Ruffin et Gilles Balbastre seront, Gilles Balbastre que vous connaissez, qui est lui aussi journaliste et réalisateur de télévision, ils seront le jeudi 13 mars à 19h à la Bourse du Travail, rue du Château d'Eau à Paris, dans le 10e. C'est organisé par Acrimed, qui est un site critique des médias. C'est le moment attendu de la réclame.